aux quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, voix sans Dieu, sans publicité et sans maître de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, deux grands articles issus du bulletin d'information numéro 42 du 11 décembre 2022 du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. D'abord le témoignage d'une hospitalisation abusive et ensuite un texte qui est un article scientifique, historique, sur le certificat psychiatrique. Le certificat du psychiatre, de l'art à la technique. Et voilà, c'est issu de la revue L'Information psychiatrique numéro 765-71. Voilà, 2022. Eh bien, voilà, et en attendant, donc, pour commencer, un fait divers. Ça vient de la Nouvelle République, du 12 décembre 2022. Ça se passe dans l'Indre, à Chasseneuil. Une expertise psychiatrique demandée pour le faux psychiatre. Faux diplôme, fausse identité, faisant preuve d'un incroyable aplomb, un quinquagénaire postulait à un poste de psychiatre à Chasseneuil-en-Berry, dans l'Indre, mais auprès de l'ordre, l'homme est introuvable. Les responsables de la clinique du Haut-Clusot à Chasseneuil-en-Berry n'en reviennent toujours pas lors du premier semestre 2021. Nous étions à la recherche d'un psychiatre, confie Martine Gruet, directrice, et dans ce cadre-là, nous nous sommes arrêtés sur une candidature qui nous paraissait intéressante. Après quelques échanges, nous avons reçu ce candidat au début du mois d'août. Un entretien d'environ 2 heures qui allait très bien se dérouler. Ce monsieur était très persuasif et disait avoir une expérience en médecine générale et en psychiatrie. Un profil qui correspondait aux recherches de cet établissement réputé dans toute la région centre. J'ai donc transmis son curriculum vitae à ma direction régionale. Et un deuxième entretien a été fixé quelques semaines plus tard. Cette fois-ci avec le directeur régional, la directrice de la clinique et deux psychiatres en poste au sein de l'établissement. L'homme, à l'aplomb remarquable, allait ainsi, une seconde fois, emmener tout son auditoire dans ses, l'article dit, divagations mensongères. Notamment qu'il avait travaillé dans le sud de la France ou encore en Suisse. Un entretien qui ne laissait planer aucun doute. Alors nous avons décidé de poursuivre la procédure. Et comme il est formellement nécessaire dans ces cas-là, nous lui avons demandé ses diplômes, ainsi que son numéro du répertoire partagé des professionnels de santé, RPPS. Et là, un grain de sable s'est glissé dans les rouages de ce recrutement. Les diplômes étaient bien transmis. Mais jamais le fameux numéro RPPS, véritable sésame de la profession. Il disait que ce numéro était dans ses cartons, mais qu'il n'arrivait pas à le retrouver. Les jours, puis les semaines passant, les responsables de la clinique devenaient dubitatifs, voire soupçonneux. Nous avons alors contacté l'ordre des médecins, ainsi que les responsables des établissements où cet homme avait soi-disant travaillé. Et là, énorme surprise, personne ne le connaissait. averti, l'ordre des médecins déposait une plainte et une enquête était aussitôt ouverte. Elle allait permettre de confondre ce Gatsby version Berrichon qui n'en était pas à son coup d'essai. Il avait effectivement entrepris de même démarche auprès de l'Association des entreprises du bâtiment et des travaux publics de l'Indre pour la santé au travail. Il avait également fait l'acquisition d'une voiture sous une fausse identité. Procès reporté au 20 septembre 2023, mercredi devant les juges Castel-Roussin du tribunal judiciaire, ce quinquagénaire présumé innocent devait répondre des chefs de tentative d'escroquerie, usage de faux en écriture et d'altération frauduleuse de la vérité. Un procès renvoyé à la demande de son avocat, maître Alban Brisiou. Ce dernier a souhaité que son client, au regard de ses agissements, puisse bénéficier d'une expertise psychiatrique et psychologique. Une demande acceptée par le tribunal et ce procès a été repoussé au 20 septembre 2023. Pas grand commentaire à faire sur cette brève. Nous passons directement à ce témoignage d'une hospitalisation abusive du 8 juillet 2022. c'est un peu plus tard d'ailleurs, quelques jours après. Le 8 juillet 2022, j'ai été amené par les pompiers aux urgences adultes du Kremlin-Bicêtre APHP. J'avais fait un malaise dans la rue où je me trouvais. Et j'avais demandé à un monsieur qu'il appelle les pompiers. En effet, j'avais attrapé un coup de chaleur, j'avais des nausées, je tremblais. Je me sentais mal car, de plus, j'avais été témoin d'un accident. Un petit garçon s'était pris un camion dans la tête en voulant traverser. J'étais sous le choc de cet accident. En arrivant aux urgences, je descendis du brancard et finalement je me sentais mieux. On m'a demandé d'aller voir l'infirmière et j'ai refusé à plusieurs reprises. J'ai répété que je me sentais mieux, mais apparemment je n'avais pas le choix. J'ai été paralysé par la peur et je me suis mis à crier, chose que je n'aurais pas dû faire, mais cela a été plus fort que moi. J'ai paniqué, je me suis senti coincé et forcé car elle ne voulait pas me laisser sortir de l'hôpital. J'ai crié, je pense, car le souvenir de précédentes hospitalisations ont refait surface et m'ont laissé des traumatismes, à tel point que je ne supporte plus du tout l'univers des hôpitaux. Plusieurs personnes, environ 6, je ne sais plus, se sont jetées sur moi, m'ont cramponné. Étant donné que je savais ce qu'ils allaient faire, je me suis débattu de toute ma force. Ils m'ont fait très mal. J'ai d'ailleurs eu par la suite des hématomes à l'intérieur des deux bras sur environ une longueur de 10 cm et sur une largeur de 6 cm. Je n'ai pu ni faire des photos ni faire constater par le médecin légiste ces hématomes. J'ai tellement eu peur que je me suis uriné dessus à plusieurs reprises. Je me souviens d'une aide-soignante assez agressive qui s'est exclamée « Ah, elle m'a pissé dessus, celle-là !» Ils m'ont donc maintenu installé sur une table d'examen, m'ont attaché. Ils m'ont ordonné de prendre un médicament, et si je refusais, ils me faisaient une injection. Ayant été énormément sédaté, sans mon consentement, bien sûr, il me manque à ce jour des détails et des éléments plus précis qui auraient pu être rapportés à ce récit. J'ai subi un interrogatoire comme si j'étais une criminelle. Pourquoi étais-je ici? Avais-je un but? Est-ce que j'entendais des voix? Ils ont fouillé le sac que j'avais. Je n'ai pas été traité comme un être vivant, j'ai été déshumanisé. Attaché, fouillé, déshabillé, sédaté sans mon consentement. Je pouvais assimiler cela à de la torture. Ensuite, ils m'ont mis dans une chambre en me laissant attaché. Durant environ 24 heures, je ne sais plus, ma vessie a littéralement lâché et je me suis vidé de toute mon eau, à tel point que je me suis retrouvé déshydraté et on a dû me poser une perfusion. Je ne sais plus combien de temps j'ai été attaché car, n'ayant pas l'heure, j'avais perdu la notion du temps à ce moment-là. Je le répète, j'ai oublié certains éléments de cette période liés à une forte sédation. Je ne sais plus quel jour, peut-être le 10 juillet, deux aides-soignants sont venus faire ma toilette. L'aide-soignant de type africain, à ma droite, à la vue de mon corps, a eu une érection. Il a posé son sexe sur ma cuisse droite, volontairement, à travers son pantalon. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « T'as fait de la merde !» Il a resserré fortement la contention de ma cheville droite à tel point que j'ai ressenti le métal dans ma chair. Il me semble avoir crié de douleur, je ne sais plus. Je me souviens que la douleur était insupportable. Je peux qualifier l'acte de cet aide-soignant d'agression sexuelle et torture. Son collègue de type européen à ma gauche a moins serré la contention de ma cheville gauche. Comment expliquer cela ? Le 11 juillet 2022, j'ai été transféré dans une autre chambre dans le service psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse. Étant sous sédation, les souvenirs sont flous. De force, on m'a fait 3 tests PCR. J'ai été enfermé dans une chambre plusieurs jours d'affilée, sans sortir, sous prétexte que j'avais le Covid alors que je n'avais aucun symptôme. J'ai eu chaque jour des piqûres dans le ventre pour éviter les phlébites contre mon gré, et c'était douloureux, car les infirmiers n'étaient pas dans la délicatesse. Je ne supporte pas les piqûres, encore moins quand je n'en fais pas la demande. Ceci environ pendant une période de 7 jours. Avant le 12e jour d'hospitalisation, j'étais censé comparaître devant le juge des libertés et de la détention avec un avocat commis d'office. Or, j'ai été privé de mon droit légal, car une aide-soignante m'a accompagné jusqu'à l'entrée de la salle d'audience qui se trouvait au sein de l'hôpital, dans un autre bâtiment où je me trouvais, puisque c'était en visioconférence. L'avocate a refusé de me voir car je n'avais pas de test PCR à jour. Or, je venais tout juste de sortir d'isolement et mon test était négatif. Le 22 juillet 2022, je suis arrivé à l'hôpital de Cholet, à l'unité... temps. Durant quelques semaines, je n'avais le droit que de sortir sur une passerelle entourée de barreaux qui ressemblait à une cage. Ensuite, au bout de quelques temps, plusieurs patients et moi, nous sommes sortis dans un jardin grillagé en bas de la passerelle, et cela sous surveillance. Cela pour vous dire que la privation de liberté a largement dépassé la limite du supportable. Ensuite, j'ai changé d'unité, je suis arrivé dans l'unité Intel. Enfin, il y a 3 petites étoiles. J'ai eu le droit de sortir par palier d'une heure dans le parc non grillagé et je ne sais pour quelle raison ma sortie était limitée à une heure, alors que d'autres patients n'avaient pas leur temps limité pour sortir. J'avais un comportement tout à fait normal et je n'ai jamais rien dit sur quoi que ce soit. Je m'adressais correctement au personnel soignant, j'étais plutôt agréable. Je prenais mes médicaments contre mon gré, mais je savais que je n'avais pas le choix. Je n'ai jamais refusé, de toute façon, si on refuse, c'est l'injection. C'est comme si mon corps ne m'appartenait plus, comme si mon corps appartenait à l'État, aux infirmiers, aux soignants, aux médecins, aux hôpitaux. Alors que pourtant mon corps m'appartient à moi seul et personne d'autre. Nul n'a le droit de décider ce que je dois introduire dans mon corps. C'est une violation de mon intégrité physique et de mes droits humains fondamentaux. Le 18 août, je suis sorti de l'hôpital de Cholet. Le psychiatre Intel m'a contraint et forcé d'accepter un programme de soins sans consentement, avec un rendez-vous mensuel forcé et la prescription de médicaments neuroleptiques, lithium et Abilify. Sachant que le lithium est un médicament dangereux, il peut détruire les reins à partir de 8 semaines de traitement. Je vous précise pourquoi le psychiatre Intel m'a prescrit le lithium. Eh bien, elle m'a posé une question. Aviez-vous des médicaments en 2019 ? En effet, j'ai été hospitalisé pour une autre raison, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ce serait trop long à exposer. Il en avère qu'il m'avait prescrit des médicaments à la sortie de mon hospitalisation, mais j'ai jugé ne pas en avoir besoin, alors j'ai arrêté. C'était plutôt néfaste pour ma santé. À ce que je sache, je suis libre de mes choix thérapeutiques. La prise de neuroleptiques provoquait et provoque chez moi trop d'effets secondaires. Somnolence, baisse de la vue, maux de tête, photosensibilité, constipation, tremblement de main, transpiration excessive, prise de poids. Je lui ai donc répondu non. C'est alors qu'elle a décidé de m'imposer ce programme de soins sans consentement et la prescription d'Abilify et du lithium. Elle m'a dit, si vous ne prenez pas le lithium, cela se verra dans la prise de sang. Donc, vous serez obligé de le prendre. En gros, si je ne fais pas de prise de sang et ne prends pas les médicaments, cela veut dire que je ne respecte pas le programme de soins. Et si je ne me rends pas au rendez-vous mensuel, je vais recevoir des menaces de l'hôpital. Le deuxième psychiatre a repris mon dossier. Et c'est avec elle que je dois m'entretenir chaque mois. Je lui ai demandé de diminuer les médicaments et je souhaitais la voir tous les deux mois car le rendez-vous mensuel est contraignant. Elle m'a répondu que c'est elle qui décidait de toute façon, comme si elle avait totalement le pouvoir sur mon être. Je juge que c'est un abus de pouvoir. Elle a prétexté que le risque de rechute nécessitait la prise de neuroleptiques puisque je suis diagnostiqué bipolaire selon je ne sais qui. Sur quoi leur diagnostic repose-t-il? Elle a ajouté que la prise de médicaments était à vie. Ils constatent quelques symptômes, ils consultent leur Bible, le DSM-5, et hop, vous êtes classé dans telle catégorie de maladie. Ils vous répètent que vous êtes malade. Il n'existe pas de péril imminent à ce jour, c'était le motif d'admission du 11 juillet 2022 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. D'ailleurs, je déclare avoir subi des violences corporelles, des abus de pouvoir, une agression sexuelle, comme cité au-dessus par un aide-soignant entre le 8 et le 11 juillet 2022 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, de la part de personnel soignant. Alors là, il y a quelques citations de code juridique. Des tortures et des actes de barbarie, article 222.1 à 222.6.4 selon le code pénal. Article 222.1. Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132.23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 16.1 du Code civil, création loi numéro 94-653 du 29 juillet 1994, article 3. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Paragraphe 1. Des atteintes à la liberté individuelle. Article 432.4 à 432.6 du Code pénal. Article 432.4 modifié par l'ordonnance numéro 2916 du 19 septembre 2000. Etc. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. Livre 3, livre 2, atteinte à la personne humaine, selon le code pénal. Section 3, des agressions sexuelles, article 222.22. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans des circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113.6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113.8 ne sont pas applicables. Article 222.22.1. La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222.22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. Cet événement a eu de lourdes conséquences dans ma vie privée. Le psychiatre machin établit un certificat tous les mois et je ne sais avec quel argument, car elle me pose depuis septembre les mêmes questions. Êtes-vous irritable ? Je réponds non. Dormez-vous bien ? Je réponds oui. Avez-vous une activité ? Je lui réponds marche, lecture, piscine, recherche d'emploi. Elle établit donc un certificat mensuel qu'elle envoie en copie au juge des libertés et de la détention du tribunal d'instance à la délégation territoriale à la CDSP. Le motif, je cite, considérant que dans ce certificat, le docteur Truc, psychiatre du centre hospitalier de a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Madame 1-1 permet la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins. Or, il n'y a aucune évolution des troubles mentaux puisque je n'en ai aucun. Elle me menace en me disant que si mon humeur n'est pas stable, que si je ne prends pas mes médicaments ou si je ne viens pas au rendez-vous, elle peut me faire hospitaliser à tout moment. C'est bel et bien du chantage et une menace abusive. Elle m'a dit cela car je suis venu au rendez-vous mensuel et dès le début je lui ai dit que je n'avais plus rien à dire à ce jour. Pour elle, c'était inconcevable que je ne m'exprime pas car c'est un programme de soins sans consentement, certes, mais elle souhaite que l'échange soit cordial. Je lui ai dit que j'étais là par obligation et que je ne souhaitais plus m'exprimer. Elle m'a posé des questions pour me faire parler car elle m'a dit « Vous savez que j'établis un certificat tous les mois. Qu'est-ce que je vais écrire si vous ne vous exprimez pas ?» Je suis à la recherche d'un emploi et l'heure du rendez-vous, souvent vers 16h, peut être compliquée à placer, surtout si je travaille du lundi au vendredi en horaire de journée. Les consultations ne peuvent avoir lieu que de 8h à 17h du lundi au vendredi. J'ai d'ailleurs dû refuser du travail en journée qu'une boîte d'intérim me proposait. De plus, c'est assez contraignant car je dois faire des prises de sang au début toutes les semaines, ensuite tous les 15 jours, ensuite tous les mois, tous les 3 mois et tous les 6 mois. La contrainte de ce programme de soins sans consentement entrave ma liberté d'aller et venir. Je me sens complètement bloqué, emprisonné, et cela joue sur mon moral. Je vais demander la main levée du programme de soins sans consentement. Cependant, avant de l'envoyer au président de la commission départementale des soins psychiatriques, si jamais la demande de main levée est refusée, et je vais être obligé de prendre un avocat pour comparaître devant le juge des libertés de la détention du tribunal d'instance dans le cadre d'une saisine pour contester cette décision. Je remercie tous les êtres vivants qui prendront le temps de me lire ou de m'écouter. L'écriture de cette expérience est une première étape de libération émotionnelle. Elle a laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire et dans ma chair. Cet internement est un traumatisme et l'écriture de mon histoire que je partage ici en est le début de la guérison. Voilà, donc on va faire une première pause avec une chanson intitulée « À quoi ça rime ?» de Audio et Rulio.
Yeah. Quoi ça rime? Yeah. Je ne sais pas comment commencer, comment pourrais-je identifier ce sentiment d'immensité? Puis-je vraiment me sentir fier? Je suis plutôt sincère, non? Et j'ai fait le serment que je serai un servant, observant les vivants. Si t'as un don, certain, si t'as un fond, fervent, c'est certain. Tu vas couper toutes ces langues de serpent et clairement, personne ne pourra faire de toi insultant, insultant les gens qui pensent que t'es qu'un simple consultant et t'entends Mazi qui te tente. posé dans les tentants. Rêve depuis longtemps, ouais, je sais que c'est tentant. Mais pour moi, tout a un sens, sans prétention, coalescence que j'ai depuis l'adolescence. Sans, sans le sang, on voit que ça depuis tout petit. Toujours blessé comme mon petit dit. Et on est là, on se multiplie. On reste dans notre mesquinerie. Rime, rime, rime. À quoi ça rime, rime? À quoi ça rime, trim, pour rester digne? Dis-moi le sims, mime, ce qu'on te dit de faire, fais mine, d'avoir bonne mine, sinon je te pim, bim, la tête. Sinon je te pim, bim, la tête. À quoi ça rime, trim, pour rester digne? Dis-moi le sims, mime, ce qu'on te dit de faire, fais mine, d'avoir bonne mine, sinon je te pim, bim, la tête. Sinon je te pim, bim, la tête.
À quoi ça rime? Tu l'as dit, à quoi ça rime, à quoi rime nos textes, à quoi rime la vie. Un putain de bordel avec un nom, la merde, comme perdre ses textes à 5 jours de poser. La haine, odieux, la rage dans la peau, nique la mémoire des anciens. J'ai tout, c'est faux, regarde dans le creux de ma main, taf de merde. Pas de pote, pas de soutien, tu veux savoir ce que vaut ma vie? Rien, à quoi ça rime, que dalle, mais faut que je fasse mon couplet. Que je fasse l'effet d'une balle qui dans tes poumons vient se loger. Je t'empêche de penser, respirer comme la France est maurienne. À quoi rime tous ces fachos qui comme de rien se promènent? À quoi ça rime, putain, être entouré d'abrutis, entouré d'acres du faux, des gens juste débiles. Sacrifier de son temps pour être dans le mood de la société. Perdre son temps à bosser, perdre son temps à aller voter. Putain, à quoi ça rime, Julio? À quoi ça rime, ces rimes qui nous déciment le cerveau. Tout ce que je sais faire est qualifié d'artistique. Donc j'ai aucun avenir aujourd'hui, je l'ai compris. Loin des streamers influenceurs qui blindent leur portefeuille vitrine, qui vendent des VPN à toute heure. Victime de la France d'un quotidien en mode repeat, je comprends rien, mec. À quoi ça rime, à quoi ça rime?
Radio Libertaire 89.4, la voix radio sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste, c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et dans le volet histoire de la psychiatrie, le certificat du psychiatre de l'art à la technique, un article d'Eduardo Mailleux, praticien hospitalier, c'est chez Robert Bélanger à Aulnay-sous-Bois. Et c'est issu de l'information psychiatrique, la revue. Récemment, alors, le titre, donc, je répète, c'est le certificat du psychiatre de l'art à la technique. Récemment, des collègues du journal français de psychiatrie, se propose de revenir sur la question du style du certificat médical en psychiatrie, un projet qui, malgré l'actualité du sujet, s'interrompt brusquement. Leur idée est de viser la question du style prenant appui dans la préface que Paul Guiraud, 1882-1974, écrit en 1942 pour le recueil des œuvres psychiatriques de Gaëtan de Clérambault, 1872-1934. Si un sonnet sans défaut vaut un long poème, un certificat bien fait vaut bien une observation. Mais il est presque aussi difficile de faire un bon certificat qu'un sonnet impeccable. Faire, comme je dis souvent, un certificat sur mesure, c'est une œuvre d'art autant que de la science. Voilà, fin de citation. Regardons un exemple de ce dont parle Guiraud avec des extraits d'un certificat d'internement signé par de Clérambault. C'est Henriette, 48 ans, 1er décembre 1920. Débilité mentale, longue période de délire spirit avec hallucination psychique, intuition, hallucination psychomotrice, monologue rimé, voire épisodique. Exaltation collective et émulation à cette époque. Exagération intéressée, oracle politique, célébrité temporaire, 1896. Actuellement, désenchantement, regrets divers, rancunes diffuses, idées de persécution. Les prêtres la brûleront comme Jeanne d'Arc, etc. Récrimination systématique contre des séries de personnages en vue. Travail imaginatif, mégalomanie, ascendances illustres et parfois inconciliables, actuellement descendante de Napoléon III, elle est Jeanne d'Arc, interprétation rétrospective, préoccupation sexuelle, solitude morale, soliloque et subagitation à son domicile, cris, bris d'objets, lettres incohérentes aux voisins, mysticité familiale, crédulité souvent exploitée par autrui, chronicité, épave sociale, signé Dr. G. de Clérambault. Malgré l'enthousiasme de Guiraud, il semble impensable aujourd'hui de continuer l'art du maître du dépôt sans se heurter à des écueils infranchissables. Les collègues du journal français de psychiatrie s'interrogent. Peut-on considérer que les certificats constituent un matériel brut, quintessence d'une clinique, comme semble le penser Guiraud des certificats de Clérambault? Ou alors le problème n'est pas qu'il est un art d'équilibriste, puisqu'il est art sémiologique dont l'adresse est la médecine aussi bien que les autorités administratives et judiciaires. Ce dernier point est crucial car la question de l'adresse paraît être aujourd'hui décisive et l'exercice de style peut s'apparenter plutôt à celui d'un funambule sur la corde raide. C'est ce fragile équilibre que nous allons tenter de revisiter concernant le style des certificats. Le style est l'homme même, répète-t-on, sans y voir de malice, écrit Lacan dans l'ouverture des écrits, commentant une formule du savant français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Comme cela ne lui semble pas suffisant, il précise « Le style, c'est l'homme. En rallierons-nous la formule à seulement la rallonger ? L'homme à qui l'on s'adresse ? » Peut-on étendre presque littéralement sa proposition au style de rédaction des certificats moyennant une simple substitution? Au lieu de l'homme à qui l'on s'adresse, nous pourrions mettre l'autorité à laquelle on s'adresse, ou plutôt les autorités, ou encore mieux, la multiplicité d'autorités supposées être concernées par l'écriture du certificat. La substitution nous semble parodier le notable renversement auquel nous assistons depuis le départ, pris en 1838. Loi de 1838, un siècle et demi de discussion. D'après Georges Lanthéry-Laura, la loi de 1838 sur les aliénés arrive par la volonté des psychiatres de l'époque, Étienne Esquirol en tête, qui se montrent d'accord pour penser que les conditions d'observation des malades ne sont pas adéquates que si l'on dispose d'un établissement ne recevant pas d'autres malades que les malades mentaux et assez à l'écart du monde. Pour Lanthéry-Laura, elle se veut dans une optique libérale, optimiste et philanthrope. Ainsi, les termes cellule, camisole, douche se substituent dans son texte à sévice, chaîne ou cachot. Il précise « Ce n'est pas sans intérêt de reconnaître que toutes les précautions prises par la loi pour prévoir les placements avec les modalités volontaires, d'urgence, d'office, sont élaborées pour protéger la liberté individuelle des citoyens et éviter un recours aux internements administratifs de la restauration, de l'Empire et du Consulat, ou à la pratique, alors courante, de la séquestration dans les maisons religieuses sans contrôle. » Yves Thirode et Thierry Alberne, auteurs d'un ouvrage qui a fait un temps référence pour les praticiens de notre génération, détaillent ces dispositifs de certificat. La loi de 1838 prévoit pour les admissions en placement volontaire, désormais PV, une demande manuscrite sur papier libre de la personne qui demande le placement ou un arrêté préfectoral pour le placement d'office. Le même, pour le PV, est exigé un certificat, est exigé un certificat rédigé par un docteur en médecine n'étant pas rattaché à l'établissement d'accueil, daté de moins de 15 jours. Qui cependant n'est pas obligatoire en cas d'urgence. Pour le placement d'office, désormais PO, ce même certificat est facultatif. À Paris, il est établi à l'infirmerie spéciale rattachée à la préfecture de police, IPPP. lieu où Clérambault exerce son art, où le malade reste en général quelques heures en observation. Le directeur de l'établissement doit informer l'autorité administrative, préfet, sous-préfet ou maire, et tenir à jour le registre de la loi, aussi connu avec une note plus kafkaïenne comme le livre de la loi. Par la suite, la loi prévoit obligatoirement un cas de PV des certificats descriptifs de 24 heures, de quinzaine, de situation, et de consigner au moins mensuellement les changements d'état mental du patient. Dans le cas du PO, placement d'office, l'obligation est de consigner au moins mensuellement sur le registre les changements d'état et de rédiger le premier mois de chaque semestre un rapport sur la nature de la maladie et les résultats du traitement. La sortie du malade peut nécessiter d'un certificat médical de sortie attestant la guérison ou se faire à la demande de la famille ou des représentants du patient. Dans le cadre du PO, le préfet ordonne la sortie le plus souvent après une expertise ou à la suite d'un certificat médical circonstancié. L'intérilora y voit dans la multiplicité des certificats et visites obligatoires des autorités judiciaires, administratives et municipales, la suspicion à l'endroit des établissements privés et un certain anticléricalisme, souvent antinobiliaire. Nous reconnaissons dans ses propos l'écho de sa devise de jeunesse qu'il nous dit, prise dans « Misère de la philosophie » de Karl Marx, « L'histoire avance toujours par son mauvais côté ». Le livre blanc et la responsabilité du psychiatre, 1966. Car la loi dite Esquirol n'a pas cessé d'être attaquée, dans un ton parodique et littéraire, par le grand reporter Albert Londres qui, dans « Chez les fous », la traite, en 1925, de « loi de débarras ». Plus acharnée, celle que lui adresse un groupe de psychiatres regroupés autour d'Henri Hay, qui, à la suite des journées psychiatriques se déroulant entre 1965 et 1966, plaide, tel un slogan avant-coureur de mai 68, « Abrogation de la loi de 1838 ». Les comptes rendus sont publiés par l'Évolution psychiatrique avec le titre de « Livre blanc de la psychiatrie française ». Il est instructif de suivre les débats consignés dans le chapitre « Législation » du tome 2 où le groupe travaille à une ambitieuse, travaille à une ambitieuse refonte du texte de 1838. Le rapporteur Pierre Bailly-Salin commence par rappeler que la position classique, celle de la loi de 1838, se construit autour de deux points de départ contradictoires. Le respect absolu de la liberté individuelle, considérée par lui comme mythique, et d'autre part la défense de la société. À la recherche d'un tournant davantage médical, le projet se base sur le consentement ou non-consentement à un traitement médical dans l'esprit de motiver le malade à l'accepter. La contrainte n'apparaît que comme une phase pour qu'il se détermine lui-même à recevoir des soins. Le propos du certificat doit pivoter dans ce sens. Pour Bailly-Salin, la phrase centrale du projet doit être « Tout individu que son état met dans l'incapacité à donner un consentement à un traitement cependant nécessaire tant pour lui-même que pour la sécurité publique est signalé par le médecin qui le reçoit en charge lorsque le médecin estime qu'un traitement est indispensable. » Pour lui, toute difficulté disparaît lorsque le sujet donne un consentement valable. À ce moment, il rentre dans la catégorie de tout le monde. Dans les discussions qui suivent, Hay précise que ce projet n'est rien d'autre que l'abrogation de la loi de ségrégation que représente celle de 1838, que cette loi du tout ou rien en ce qui concerne le statut de l'internement disparaisse enfin. Il concède néanmoins que cela peut rencontrer des difficultés au point de vue des juristes, risquant de froisser la justice en donnant trop aux médecins. Pourtant, Olivier Garand pointe un problème crucial à venir. Alors que le médecin ancien régime agit sous sa seule responsabilité et souvent en côtoyant l'illégalité, le médecin nouveau régime se couvre par un certificat en signalant le malade. Or, ce certificat nous place devant de très grandes difficultés. À qui sera-t-il adressé? Qui, le certificat établi, prendra la décision de maintien et en assurera l'exécution? Georges Daumaison rappelle que la loi de 1838 est rédigée dans une optique née de l'administration napoléonienne à l'intention des préfets et il s'agit de changer cela, ce à quoi Lucien Bonafé applaudit. Mais attention, un certificat remplace un certificat, une autorité se substitue à une autre, tempère Garand. À l'appel de Bailly-Salin pour prendre en compte que la relation thérapeutique est une relation totale qui doit inclure l'obligation du signalement, il nous arrive souvent à tous de dire à un malade « Monsieur, vous êtes fou et dans l'état où vous êtes, on ne peut pas vous laisser sortir. » Et répond que dans la plupart des cas, par le miracle transférentiel du malade au médecin, le patient obtempère sans qu'il soit nécessaire d'aucune intervention de la loi. En revanche, là où commence le problème, c'est quand le malade n'écoute pas son médecin. Que faut-il faire alors ? Nous avons à prendre des responsabilités. Surtout la responsabilité de fermer la porte. Ce à quoi Michel Audisio ajoute encore « Si c'est un tiers qui ferme la porte, c'est un tiers qui l'ouvrira ensuite. » Et puis, une proposition apparaît dans les discussions. Prendre la responsabilité à deux. Et réagit à cette ambivalence. Mais prendre à deux une responsabilité, c'est à la fois faire face à sa responsabilité et reculer devant elle. Enfin, pensant clore les débats au sujet du certificat, il propose « Au fond, nous sortons d'une situation difficile en faisant un certificat d'internement. » Pour nous, ce certificat n'est pas grand-chose et nous avons l'impression de ne pas beaucoup engager notre responsabilité. Il n'en demeure pas moins que nous l'engageons. Alors, l'engager sous cette forme ou l'engager en envoyant à l'autorité garante de la liberté des personnes, cela est bien à peu près la même chose. Entre-temps, à la suite de leur discussion, la loi de 1838 doit attendre encore près d'un quart de siècle avant d'être remplacée. La loi de 1990 et les autres. C'est ainsi qu'après une éphémère loi sécurité et liberté en 1981, la nouvelle loi est promulguée le 27 juin 1990. Loi numéro 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Le titre a changé. Pourtant, Thyrod et Albem pensent qu'elle n'apporte que peu de changements sur le fond, mais qu'elle innove sur la forme. En revanche, il note que l'application rigoureuse des nouvelles dispositions semble nécessiter une connaissance approfondie des mécanismes régulateurs en place. Sur le fond, elle conserve l'hospitalisation libre et les deux modalités sous contrainte, désormais nommées hospitalisation à la demande d'un tiers, HDT, et hospitalisation d'office, HO, elle instaure aussi une commission départementale des hospitalisations psychiatriques, CDHP. Qui examine la situation des personnes hospitalisées et visite les établissements concernés. En ce qui concerne les certificats, le point décisif retenu est bien le consentement, ce qui doit être explicité. Se met en place une figure de style imposée pour la conclusion, attester l'impossibilité de consentir à l'hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en établissement hospitalier dans le cadre de l'HDT ou l'affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et ou la sûreté des personnes pour les HO. Si la demande du tiers est obligatoirement manuscrite, l'usage de documents préimprimés semble être toléré. Le certificat doit être descriptif et circonstancié, en évitant tout diagnostic, mais indiquant la nature et l'évolution des troubles. Sauf urgence exceptionnelle, deux certificats médicaux sont nécessaires, dont celui qui est nommé premier certificat doit être obligatoirement établi par un médecin extérieur à l'établissement. Tout docteur en médecine peut être signataire. Le deuxième certificat peut être rédigé par un médecin de l'établissement et il n'est pas obligatoire qu'il s'agisse d'un psychiatre. Les conclusions des certificats doivent être concordantes pour aboutir à l'hospitalisation. Thyrod et Albern remarquent songeur l'étrangeté qu'un diagnostic spécialisé ne soit aucunement confié à des spécialistes. Pour les HO, la situation est à peu près comparable. Tous les signataires doivent répondre aux critères de l'article L356 du Code de la Santé publique, ce qui exclut les internes et faisant fonction les assistants à titre étranger, les attachés étrangers, etc. De son côté, le directeur de l'établissement doit les faire suivre au préfet à la CDHP. Le certificat de 24 heures doit confirmer la nécessité du maintien des soins sous contrainte et son rédacteur doit être obligatoirement psychiatre. Puis suit le certificat de quinzaine signé aussi obligatoirement par un psychiatre qui inclut comme destinataire le procureur du tribunal de grande instance. Ensuite, il est obligatoire d'établir des certificats mensuels. La loi prévoit une nouveauté, les mises en place des sorties d'essai, avec leurs certificats correspondants, sorties qui peuvent être d'une durée variable mais inférieure ou égale à 3 mois, délocalisant ainsi la mesure hors les murs. Ajoutons qu'il existe aussi des certificats de fin de sortie d'essai ou ceux de transfert d'établissement, ainsi que celui de sortie sans autorisation. On évite le terme de fugue. Et pour terminer, les transformations d'une HDT vers une HO en cours de mesure. Un simple coup d'œil permet de voir que le nombre de certificats ne fait que se multiplier, comme si le soupçon évoqué par l'antérilorane n'aurait fait que grandir en même temps que la forme commence à prendre le pas sur le contenu. Deviennent plus nombreux aussi les destinataires à qui sont adressés les certificats, qui gardent un œil supposé vigilant sur ce qui est écrit. Une révision de la loi est prévue 5 ans après sa promulgation, mais ce n'est que le 5 juillet 2011 qu'une nouvelle loi est votée en procédure d'urgence pour répondre à l'injonction du Conseil constitutionnel qui déclare certains aspects de la loi en cours inconstitutionnels, comme le précisent les spécialistes Carole Jonas et Jean-Louis Senon. La substitution lexicale commencée par la loi de 90 se poursuit avec la nouvelle loi qui s'appelle désormais la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Exit les troubles mentaux dont la description sous la plume de Claire Rambeau pouvait sembler si poétique à Guiraud. À cette occasion, il ne semble pas avoir eu autant de débats et de propositions provenant de psychiatres. Précisons encore qu'un nouveau gouvernement arrivé au pouvoir en 2012, comme pris par son slogan « Le changement, c'est maintenant », modifie immédiatement certaines dispositions par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013, qui réforme la précédente et dont il serait labyrinthique d'en décrire ici les changements. Concernant la question des certificats, d'autres protagonistes sont impliqués désormais au premier rang à côté des psychiatres. Ainsi, la Direction Générale de la Santé, DGS, a saisi la Haute Autorité de Santé dans ce contexte afin que soit menée une réflexion conciliant les opinions et les besoins des différents intervenants, santé, justice, intérieur, etc., permettant aux psychiatres de répondre à l'exigence de produire des certificats ou avis médicaux suffisamment circonstanciés pour fonder la légalité des décisions administratives ou judiciaires. Le résultat est la production d'un rapport de 95 pages au titre de l'aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d'une personne majeure à l'issue de la période d'observation de 72 heures, accompagnée de sa fiche mémo correspondante, publiée en mars 2018, rien que pour un seul certificat. Notons que si l'adresse des documents est bien le psychiatre et son écriture du certificat, l'ampleur du rapport laisse à penser qu'il vise à éclairer bien d'autres intervenants. Disons que si, à une époque prestigieuse de la psychiatrie, on pouvait gloser sur la figure du psychiatre en tant que secrétaire de l'aliéné, on peut craindre désormais que le secrétariat ait changé de bureau. Nouvelles adresses, le juge et l'avocat. 2011. Avec les derniers changements, aux autorités précédemment concernées s'ajoute de tout son poids la Cour européenne des droits de l'homme avec son regard sur la question des libertés sur le continent. Le principal point d'inconstitutionnalité de la loi 90 est le fait qu'elle permet le maintien d'une hospitalisation sous contrainte au-delà de 15 jours sans l'intervention d'un juge de l'ordre judiciaire. Mis à part un nouveau changement de nom des précédentes modalités d'hospitalisation, désormais SDT pour les soins à la demande d'un tiers et SDRE, soins par décision du représentant de l'État, la loi intègre une possibilité de soins sans consentement en dehors de l'hospitalisation complète, pour laquelle un décret précise les conditions de rédaction et le contenu des certificats de programme de soins, où il s'agit moins de cliniques que de dispositifs. Fréquence de consultation, visite à domicile, traitement, lieu de la prise en charge, etc. Avec la remarque que pour des motifs de confidentialité, il ne doit pas comporter d'indications sur la nature ni les manifestations de troubles mentaux dont souffre le patient. Aussi, la loi prévoit un certificat collectif libellé par un collège de psychiatres limité à quelques circonstances précises. SDRE, d'une durée de plus d'un an ou intervention du juge des libertés, pour les patients réputés les plus dangereux, il est composé d'un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, d'un autre ne participant pas à la même prise en charge, et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant, eux, à la prise en charge du patient. Constatons que si la loi de 90 avait augmenté le nombre de certificats par rapport à son aîné de 1838, celle de 1911 continue dans cette direction. En revanche, on peut se demander s'il s'agit toujours du même soupçon évoqué par Lantéri Laura ou plutôt d'une mécanique bureaucratique inflationniste. Car parmi les autres autorités officielles, officie aussi l'Agence régionale de santé, ARS, qui opère un contrôle du contenu des pièces remises à l'autorité préfectorale. Les certificats se diversifient, changent de nature et même les signataires d'un même certificat sont désormais pluriels. Mais surtout, le nouvel acteur majeur de la loi est le juge des libertés et de la détention, JLD. La loi établit une période d'observation de 72 heures à la fin de laquelle un nouveau certificat doit être établi permettant d'évaluer la capacité de la personne à consentir aux soins, en particulier lors d'une audience. Dans les faits, un certificat doit être établi dans les 24 heures suivant l'admission, un autre certificat dans les 72 heures, nécessitant l'avis de trois médecins et ou psychiatres différents sur cette période. Il s'ajoute un nouveau certificat nommé « avis motivé », dit aussi de saisine, au bout du huitième jour. La loi prévoit un contrôle systématique par le JLD, impliquant en quelque sorte ce dont se méfiait est un tournant judiciaire, dont le film documentaire de Raymond Depardon, 12 jours, nous fournit l'image et le son. Un point saillant du film est qu'il permet au psychiatre de voir ce qui se passe lors de la présentation du patient devant le juge à l'occasion d'un entretien dont nous sommes habituellement absents. Après un siècle et demi sans changement, la loi concernant les hospitalisations en psychiatrie a changé trois fois en moins d'un quart de siècle, dont deux fois en deux ans. Il peut être désormais nécessaire de recourir à un assistant juridique spécialisé à temps plein dans les établissements afin d'accompagner le processus. Thirode et Albert ne pensaient pas si bien dire sur le volume de connaissances nécessaires sur les mécanismes régulateurs, car la mécanique semble faire perdre de plus en plus son aura au certificat au style de Clérambeau, si l'on paraphrase le philosophe allemand Walter Benjamin. Ce que redoute est, en 1966, concernant l'ambivalence de la responsabilité des psychiatres, semble se confirmer au-delà de la crainte. Le rapport indique que la multiplication des certificats et avis médicaux n'est en définitive qu'un des éléments permettant la prise de décision de recours aux soins sous contrainte. Chaque document répond à une finalité précise et devra être rédigé par conséquent en fonction du destinataire. Chemin faisant, le style devient le type de certificat à établir en fonction de l'autorité à laquelle on s'adresse. La contrainte retombe maintenant sur le psychiatre, sous un mode inversé. Le rapport n'est pas sans l'ignorer. Du côté des psychiatres, les enjeux sont multiples. Souci de ne pas porter atteinte à la confidentialité, attenter au secret médical, stigmatiser la personne ou encore défaut de temps et de ressources face à une multitude de certificats ou avis médicaux perçus comme une contrainte administrative supplémentaire et une surcharge de travail importante au détriment des soins. Interrogation quant à la terminologie à employer, favoriser la rédaction en termes médicaux ou la compréhension par les juges, Et quant au bien fondé de certificats et avis produits de manière successive et rapprochée, ne pouvant souvent décrire qu'un même tableau pathologique sans évolution rapide dans la majorité des observations. Ce qui parfois nous installe dans une banalité sérielle aliénante dont on ne sait plus de qui on est le secrétaire. Surtout lorsque la judiciarisation des soins psychiatriques sans consentement contraint de services publics, santé et justice, à devoir aborder et mettre en œuvre les politiques publiques sans moyens supplémentaires. Comme pourrait le dire Clérambeau, plus au ciel que les moyens restent constants. Mais ce n'est pas tout. Au nom du droit d'être assisté, le patient au sujet duquel la mesure privative de liberté se voit contrôlée par le JLD est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat lors de l'audience. En pratique, les certificats médicaux constituent les pièces essentielles à leur portée. C'est ainsi que la dialectique de la liberté se rabougrit dans le plaidoyer pour vice à la mécanique de la procédure. Mais il n'y a pas que les soignants qui disent « ajoutons qu'au nom du droit à l'information se rajoute un autre document qui doit porter la signature du patient cette fois-ci, la notification de la décision d'admission ». Ainsi, le patient, en sa qualité de sujet de droit, se voit obligatoirement notifier les décisions administratives du directeur dans le cas du soin à la demande d'un tiers et du préfet. Dans le soin à une SDRE. Ses droits et les voies de recours dont il dispose. Donc, décisions administratives du directeur et du préfet, ses droits et les voies de recours dont il dispose. Un défaut de notification peut mettre en cause la procédure. Au fur et à mesure que le rapport avance, sa terminologie juridique se corse à coups de jurisprudence. Nul n'est censé ignorer la loi. La personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est aussitôt, ou dès que son état le permet, informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties, ainsi que des décisions prises à son endroit et des raisons qui les motivent. Ce que l'appareil judirico-administratif de certains établissements interprète sur son versant littéral comme l'indispensable nécessité de l'obtention d'une signature de la notification. Dans le cas de celui où nous exerçons à temps partiel, elle est rédigée sur deux pages dans le meilleur style juridique abscon, avec tous les imbroglios que l'on peut imaginer pour des patients qui viennent d'être hospitalisés sous contrainte et plutôt dans un état pas très brillant. Le sujet du consentement aux soins peut leur faire défaut, mais pas le sujet de droit à l'heure de fournir une preuve juridique. Concrètement, ils sont le plus souvent contraints à signer. Tout non-sens ne s'annule pas, comme pouvait encore l'espérer le président Schreiber. Ne parlons donc pas du sujet de la psychose qui semble fort clos. Du sonnet à l'affiche, 2018. À contresens de la harangue qu'est adresse aux psychiatres pour prendre plus de responsabilités, il est convenu aujourd'hui que les divers certificats remis à l'autorité de police sont des pièces essentielles à prise de décision, mais qui ne sont pas les seuls éléments de décision. Et sur la question du style de rédaction, le rapport est précis. Chacun des termes employés doit par conséquent être mesuré et utile à celle-ci. Rappelons que le vocabulaire psychiatrique est souvent abscon et sujet à interprétation par les non-spécialistes. Pour la Cour de cassation, comme pour le législateur, les écrits demandés aux psychiatres ont pour principale fonction de permettre de prononcer la décision individuelle la plus adaptée possible et d'éclairer le préfet sur la nécessité des soins. Le préfet n'est pas un spécialiste de la psychiatrie, il a donc besoin d'un avis circonstancié lui exposant les principales caractéristiques de l'état du patient sur l'opportunité de continuer les soins. Arrivons enfin à la fiche mémo de l'HAS, puisqu'elle est censée proposer des recommandations concrètes face à la pratique quotidienne. Remarquons que, dépassant les objectifs fixés à sa propre méthodologie, au lieu du recto verso attendu, la fiche en question ici contient plus du double, 5 pages. Le préambule à la première page de la fiche ne fait que résumer les objectifs principaux et les lois. Ensuite, la fiche prévoit 4 autres sections, dont une section nommée « Message clé », comportant une dizaine de points, qui peuvent surprendre même le lecteur non spécialiste. L'établissement d'un certificat nécessite obligatoirement un examen de la personne, redoublé d'une précision soulignant que le médecin ne peut certifier que ce qu'il a constaté lui-même, ce qui impose que la personne soit vue et examinée. Et puis, plus loin, le médecin rédacteur doit être obligatoirement un psychiatre inscrit au tableau de l'ordre des médecins et en situation régulière d'exercice. Pour évident que ce soit ces rappels, on peut soupçonner à notre tour que l'HAS n'ignore pas leur rareté dans certains secteurs du territoire, ce qui, ajouté à une recommandation émise plus bas, le certificat médical doit être lisible et rédigé en langue française, pourrait laisser pantois. Un peu moins si l'on pense au nombre indéterminé de praticiens à diplôme hors Union européenne ne relevant pas de l'article L356 du Code de la santé publique, qui font le travail sans en avoir tous les droits, en particulier amputés de la responsabilité de signer les certificats. Il faut dire que, raison de style, il arrive aussi que notre assistante médico-administrative se fasse des cheveux à la lecture de certains de nos certificats écrits directement à l'aide de l'ordinateur. Ce n'est pas du français. Car enfin, c'est aussi sur la forme qu'une nouveauté vient encore renverser complètement le style d'écriture. Désormais, les certificats médicaux doivent être dactylographiés. Si tel n'est pas le cas, il doit être fait mention sur le certificat de l'impossibilité de dactylographier. La recommandation de la fiche précise, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État, SDRE, les certificats médicaux doivent être dactylographiés. Article R3213-3 du Code de la santé publique. Dans tous les autres cas, il est recommandé de dactylographier chaque certificat ou avis médical, quel que soit le cadre légal dans lequel il a été établi, afin de garantir une parfaite lisibilité. Le certificat médical doit être daté et signé. En réalité, nous pensons qu'entre les lignes, on doit plutôt lire « numérisé », car il s'agit bien de cela dans la grande majorité des cas. Par exemple, question numérique, notre établissement utilise le logiciel M-Crossway de Maincare Solutions, conçu en vue du développement du dossier patient informatisé. En ce qui concerne les certificats, tout ou presque est pré-rempli, car il faut tout de même rédiger les éléments circonstanciés exigés pour la validité du certificat. Pour cela, il suffit que chacun se connecte à un ordinateur, lui-même connecté à Big Data. Terminons sur ces questions du style à l'aide d'un autre message clé que l'autorité nous adresse, nous prévenant sur l'hétérogénéité des destinataires du dit certificat. Le certificat médical doit permettre à ses destinataires non médecins de comprendre le bien fondé de la mesure. Nous avons compris qu'il n'y a pas de place pour un langage abscon et encore moins pour de la poésie. Mais l'affiche va plus loin encore. Elle nous dit ce sur quoi il faut écrire. Il convient d'indiquer si le tableau clinique relève ou non de soins psychiatriques. Il convient également de définir et expliciter le lien entre la nature de la pathologie et son évolution probable ou prévisible ou possible au regard du tableau médico-social et la nécessité ou non d'une hospitalisation complète ou d'un passage en programme de soins. Il est recommandé, pour apprécier la sévérité des troubles mentaux de la personne et la nécessité de soins immédiats, de rechercher un risque suicidaire, un risque d'atteinte potentielle à elle-même ou à autrui, une prise d'alcool ou de toxiques associés, un délire ou des hallucinations, des troubles de l'humeur, le degré d'incurie en lien avec un trouble mental. Avec un peu d'imagination orwellienne, entrevoyons qu'un pas de plus dans cette direction ne nous mettrait pas loin d'un certificat conçu comme un entretien structuré ou semi-structuré, où nous n'aurions qu'à cocher des croix dans la nuée numérique dont nous parle le philosophe allemand Byung-Chul Han. Ne trouvons-nous pas peut-être les prémices dans les documents hybrides qui ne sont pas tout à fait des certificats mais qui sont tout aussi obligatoires, rajoutés par la loi dite « contention et isolement », ayant subi un parcours juridico-politico-administratif sans égal entre 2016 et 2022, retracé par nos collègues. Nous disons « document » car il s'agit plutôt de notification de décision et non pas de certificat comme les autres. Et s'il n'est peut-être plus nécessaire d'être inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins pour être signataire. Dans ce sens, la dernière instruction porte la date du 29 mars 2022. Elle fait référence explicitement à des outils désormais informatisés et comporte 5 annexes. Le premier étant une frise illustrative algorithmique censée marquer le rythme de rédaction des notifications à qui c'est la lire. Les quatre autres nous paraissent bien inspirés par l'idée de cases à remplir avec des croix. Dans cette perspective, nous pourrions donc conclure qu'il semblerait que l'art du certificat succombe définitivement à la technique. Mais suivons encore Han dans ses propos pour terminer ici sur la trajectoire que nous avons dessinée concernant les certificats. Dans sa critique du paradigme numérique, il commente le texte d'un autre philosophe allemand, la main manie de Martin Heidegger. Han précise que la main qui manie est celle qui écrit et que donc la nature de la main est le manuscrit. La main de Heidegger n'agit pas, mais elle pense, et la pensée est un travail de la main. À ce point, il est aisé de situer la main de Clérambault, son style et son art du certificat. Alors, Han profite de la distance que prend son aîné avec la machine à écrire pour imaginer à son tour ce qu'il aurait pu dire du numérique, un étiolement de la pensée. Serait-ce le point que nous pourrions atteindre à l'heure de la reproductibilité du certificat numérique? Un certificat sans style, sans clinique, et pourquoi pas un jour même sans psychiatre, où resterait seule la nuée d'autorité assistée des algorithmes? Voilà, alors donc l'auteur est un psychiatre et déclare ne pas avoir de lien d'intérêt en rapport avec cet article. Et donc ce psychiatre s'appelle Eduardo Mailleux, praticien hospitalier au CHG Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Ainsi se termine l'entonnoir et nous vous disons à la semaine prochaine.
Devant la télé, ils te jamisent comme une bête. Oh, les psychiatres policiers viennent porter les crocs-tés. Tu peux crier, tu peux pleurer, il y a des murs pour t'écouter. Un autre juste déconnecté, on se fait sans mots, reste accroupi. Ici vous êtes dans la logique, quartier des crimes thérapeutiques. Parlez en français, comme ça c'est médical. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électro-canibal. Parlez en français, la mort me soit brutale. Mière. On se dépasse. Alors messieurs les biscopies, qu'attendez-vous pour dénoncer? Vous qui voulez de l'exotisme, l'enfer est là sous notre nez. Pour le reste, si pour vous c'est pas de la torture, alors Pinochet est tout fait. C'est vrai qu'ici y'a des ordures qui finissent par dire des putains. On applique la démocratie à grands coups de lobotomie. Non, ce n'est pas en Thaïlande. Excusez-moi, j'ai envie de rendre. Pour te guérir, on te détruit.